Nous continuons nos méditations dans le livre de Néhémie, donc première partie de la Bible, livre de Néhémie. Et on va lire le texte, c'est surtout les versets dans nos versions, chapitre 3, 33 à 4, 17. Mais on va lire, on va donner quelques explications et on va lire petit à petit. Je vais lire petit à petit le passage. Alors, on pourrait donner pour titre à cette méditation « Au service de la mission, malgré l'opposition ». Parce que quand on lit, et on va le lire tout à l'heure, quand on lit ce passage, ce chapitre en gros, eh bien, on parle de critique. Alors, on peut se poser la question. On ne va pas demander aux gens de lever la main, comme on fait à certains endroits, parce que soit personne lèverait la main, soit tout le monde lèverait la main. Êtes-vous sensible aux critiques? Ouais, ça, on n'aime pas lever la main pour ça. Intérieurement, je crois que tout le monde lève la main. Mais extérieurement, on n'aime pas dire « moi je suis sensible aux critiques ». Mais on est tous sensibles aux critiques, aux railleries, aux moqueries, etc. Une autre question qu'on peut se poser, sans lever la main, comment est-ce qu'on encaisse plutôt le mépris des autres? Ça, c'est encore plus intéressant. Comment est-ce qu'on fait face aux moqueries? Alors, on va dire, ça dépend. Et c'est vrai que ça dépend. Ça dépend de qui vient la moquerie. Il y a des moqueries beaucoup plus difficiles à encaisser parce qu'elles viennent, par exemple, d'un proche. Quand ça vient de très, très loin, peut-être c'est plus facile à encaisser. Puis, ça dépend du sujet. Parce qu'on a tous des zones plus sensibles que d'autres. On s'est fait une carapace sur certains sujets, et pour d'autres, alors là, on est ultra sensible. Bon, alors, ce matin, nous allons continuer notre méditation du livre de Néhémie au chapitre 4, et découvrir comment, justement, Néhémie a fait face à des moqueries, à des menaces. Et surtout aux moqueries, comment il a géré les moqueries et les menaces de ceux qui s'attaquent à la mission qu'il a entreprise de reconstruire les murs et les portes de Jérusalem. La semaine dernière, avec le chapitre 3, on a montré comment le travail de construction s'était organisé avec une mobilisation générale et un partage efficace des tâches. Ainsi, l'œuvre avance, les ennemis, commencent à se manifester. Quand l'œuvre avance, les ennemis commencent à se manifester. Pour introduire tout de suite l'application que je vous propose de ce texte, j'aimerais suggérer un parallèle donc, qu'on va essayer de développer entre la mission de Néhémie et la mission de l'Église aujourd'hui, notre mission aujourd'hui à nous. La mission de l'Église peut prendre différents aspects. Mais le cœur de notre mission est de faire connaître le message de l'Évangile à nos contemporains, à nos concitoyens, de faire connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ à nos concitoyens. C'est la mission que le Seigneur Jésus a confiée à ses disciples avant de disparaître à leurs yeux, 40 jours après la résurrection, le jour de l'ascension. Allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-les. Toutes les autres missions de l'Église s'articulent autour de cette mission et trouvent leur sens dans cette mission centrale. Alors, comme dans le cas du projet de Néhémie, cette mission, tout d'abord, suscite opposition, mépris et moquerie. Mépris et moquerie. Et cette moquerie, c'est bon de le rappeler, est une arme de l'ennemi apparemment insignifiante et pourtant tellement redoutable. La moquerie est loin d'être une arme inoffensive. Elle réussit souvent à décourager une entreprise là où des méthodes beaucoup plus directes avaient échoué jusqu'à là. Nous y reviendrons. Alors, lisons le texte. Donc, c'est Néhémie 4 dans la version second traditionnelle, 1910. Ou bien à partir, mais il y a un changement de chapitre dans les nouvelles, dans les traductions plus récentes. Notre texte commence au chapitre 3, verset 33, selon le découpage des chapitres dans les traductions plus récentes, celle de la Colombe ou celle de la Bible du Semeur qu'on va utiliser ce matin. Verset 33, donc, 3:33. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut très mécontent et se mit violemment en colère et il se moqua des Juifs. en disant, devant ses compatriotes et devant l'armée de Samarie, « Mais qu'est-ce que ces minables juifs veulent donc faire ? S'imaginerait-il qu'on va les laisser agir et qu'en offrant des sacrifices à leur Dieu, ils viendront maintenant à bout d'une telle entreprise ? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et calcinées ?» Tobia, l'ammonite, qui se tenait à ses côtés, en rajouta, « Ils n'ont qu'à bâtir. Si un renard s'élance contre leur muraille de pierre, il la brisera. Écoute, ô notre Dieu, comme on nous méprise. Fais retomber sur eux l'humiliation qu'ils nous infligent et livre-les au pillage dans une terre d'exil. Ne pardonne pas leurs fautes, n'efface pas leurs péchés, car ils ont offensé ceux qui bâtissent, leur rebâtissent les remparts. Cependant, nous avons continué à bâtir les murailles et sur tout le pourtour, elles furent réparées jusqu'à mi-hauteur, car chacun avait pris ce travail à cœur. Arrêtons-nous donc un instant ici. Qu'est-ce que ces minables juifs veulent donc faire ? Verset 34. Pour qui se prennent-ils donc, en fin de compte ? Le changement de comportement de ces juifs minables, entre guillemets, hein, étonne et contrarie les petits princes de la région. Notons que leur jugement était tout à fait juste, quelque part. Et il était totalement adopté, intériorisé par les juifs eux-mêmes. Ils étaient convaincus jusqu'à là de leur impuissance. Et c'est leur abattement, comme on a dit, qui a été la cause principale des brèches non réparées depuis plus de 70 ans. Celui qui se voit comme faible, celui qui se voit comme misérable, incapable d'initiative, eh bien, cette personne est prisonnière de sa logique d'impuissance, de sa logique de minable, on va dire. Et les moqueries de Sambala ne font que mettre en lumière la réalité que tout le monde sait. Cependant, là où Sambala et Tobia commettent une grave erreur, c'est quand ils se moquent de Dieu. Verset 34. S'imaginerait-il qu'on va les laisser agir et qu'en offrant des sacrifices à leur Dieu, ils deviendront maintenant à bout d'une telle entreprise ? Selon ses ennemis arrogants, le Dieu des Juifs est aussi minable que ces pauvres Juifs rescapés eux-mêmes. Et c'est bien à Dieu que Néhémie en appelle donc pour anéantir ses insultes et retourner la situation. Versets 35, 36, 37. Fais retomber sur eux l'humiliation qu'ils nous infligent. Livre-les au pillage sur une terre d'exil. Ne pardonne pas leurs fautes, n'efface pas leurs péchés, car ils ont offensé ceux qui rebâtissent les remparts. Donc on peut dire là deux mots à propos de cette prière qu'on appelle d'imprécation. Souvent de telles prières que l'on trouve parfois dans les psaumes aussi nous dérangent. Ne sommes-nous pas appelés à aimer nos ennemis plutôt que de prier pour leur malheur? Mais cette prière est avant tout une réaction. Il faut la comprendre comme ça, une réaction énergique contre ceux qui méprisent Dieu. C'est aussi une façon d'inviter le peuple qui l'entend, parce que c'est une prière publique, n'oublions pas, c'est une façon d'inviter le peuple à faire confiance à Dieu, à un Dieu tout-puissant, à un Dieu juste, à un Dieu qui ne laisse pas les méchants impunis. Alors oui, Dieu n'est ni sourd ni impuissant, comme les méchants le laissent entendre. Et nous croyons, nous savons même, que c'est lui qui aura le dernier mot de l'histoire et de notre histoire. Face au mépris, face à la moquerie, notre âme la plus redoutable n'est pas la contre-attaque, mais la confiance renouvelée en Dieu qui nous envoie, qui nous qualifie. Et là, on peut faire deux remarques encore. Donc, sur la prière, tout d'abord, au lieu d'étouffer, ce qu'il y a de bien dans la réaction de Néhémie, c'est qu'il n'a pas étouffé ses sentiments. Au lieu d'étouffer ses sentiments, Néhémie a eu recours à la prière. Et la prière a plusieurs effets bénéfiques. Et la prière publique aussi a plusieurs effets bénéfiques. Elle permet d'exprimer quelque chose. Elle nous donne la possibilité de parler à Dieu de ce qui nous intéresse, de voir les problèmes sous un nouvel angle, hein, comme Néhémie l'a fait. Quand on prie pour nos difficultés, on voit notre colère aussi, on voit notre ressentiment se dissiper. Ça nous est tous arrivé, je crois. Hein. On met des mots hein, et on l'exprime devant Dieu. Hein, et ça aide, notre ressentiment se dissipe. On est aussi, quand on prie pour nos difficultés, on est plus tenté de discuter, d'en discuter avec les autres avec amertume. Hein. Aussitôt après, en tout cas. Hein. Et la prière, donc, est de première importance pour le maintien d'une bonne santé mentale, comme on dit aujourd'hui. Et en priant pour ses problèmes, Néhémie a pris de nouveau conscience que Dieu est omnipotent. La reconstruction de Jérusalem était son projet à lui. Reconnaître cela a retiré de ses faibles épaules la lourde responsabilité de tout porter. Et a remis les choses dans leur juste angle. Donc ça, c'est déjà une note sur la prière. Et puis, pour développer le parallèle avec notre situation présente, je constate que beaucoup de chrétiens, hein, et de chrétiens évangéliques aujourd'hui, en France, sont dans cette attitude défaitiste hein, que l'on avait chez les Juifs du temps de Néhémie. Hein. Nous sommes une minorité, hein, faible minorité, sans accès aux médias. Hein. Ces médias qui, en plus, nous ridiculisent souvent. Hein. Et nous avons l'impression que notre message de salut ne peut être entendu par nos compatriotes aujourd'hui. Notre mission de faire connaître l'Évangile au peuple français aujourd'hui est totalement hors de notre portée. Et face à ces moqueries de ceux qui nous méprisent hein, ou considèrent avec condescendance hein, de très haut ces chrétiens qui ne vivent pas avec leur temps, qui ont une autre éthique, une autre morale, ces chrétiens qui ont une façon bizarre de prier, de louer Dieu, ces chrétiens qui propagent le virus, hein, comme on a mensongèrement dit, eh bien nous avons tendance, avec tout ça, de se refermer. Nous nous refermons facilement sur nous-mêmes et nous nous réfugions dans nos églises, dans nos assemblées, ce que tout le monde voudrait bien qu'on fasse, hein, d'ailleurs. Faibles et misérables, nous le sommes surtout dans nos têtes, hein, en oubliant l'autorité de celui qui nous envoie. Le mépris, les critiques sont souvent plus redoutables, hein, comme on l'a dit, que la persécution violente, hein, pour nous détourner de notre mission. Donc nous avons aussi, comme Néhémie l'a fait, à remettre tout cela au Seigneur. Et à continuer le travail, à rester focalisé sur la tâche à accomplir, à rester aussi, comme on l'a dit, à rester focalisé sur le Seigneur, hein, sa toute-puissance. Alors, ceci dit, si on poursuit le texte, verset 38, il est dit « Cependant, nous avons continué à bâtir la muraille et sur tout le pourtour, elle fut réparée jusqu'à mi-hauteur, car chacun avait pris ce travail à cœur. » Donc Néhémie a su encourager, a su mobiliser ce peuple faible, ce peuple minable, hein, aux yeux de tous hein, et à ses propres yeux. Donc poursuivons notre lecture au début du chapitre 4 ou au verset 7, hein, pour ceux qui ont la traduction second 1910. Lorsque Sambala, Tobia et les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens apprirent que la restauration des murailles de Jérusalem progressait et que toutes les brèches commençaient à être obturées, ils se mirent très en colère, ils se liguèrent tous ensemble pour aller attaquer Jérusalem et ils semaient le désordre. Alors, nous avons prié notre Dieu et nous avons posté des gens pour monter la garde de jour et de nuit pour nous défendre contre eux. Donc maintenant, l'opposition passe de la moquerie hein, à la menace. Et à l'intimidation. Le découragement a fait place à la mobilisation de l'ennemi qui se rend compte que le vent a tourné. Et la réaction de Néhémie est un modèle d'équilibre. Prier, oui, on l'a dit, mais aussi se préparer à repousser l'attaque. Un et deux, pas seulement un. Compter sur Dieu ne veut pas dire se voiler la face devant l'opposition ou la menace. Et la suite nous montre que cette préparation est suffisamment dissuasive pour éviter que les menaces soient mises à exécution. Pour traduire cela dans notre parallèle moderne, il est important de se former aujourd'hui pour être bien préparé. Il y a des gens qui se posent la question, que faut-il privilégier ? L'évangélisation, hein, ou la formation des nouveaux convertis, hein, la prière ou l'action. Enfin, on peut trouver toutes sortes, hein, de questions qu'on peut se poser dans ce domaine. Alors la bonne réponse, c'est les deux, mon général, bien sûr. Hein. La bonne réponse, c'est qu'il faut négliger ni l'un ni l'autre. Hein. Et bien sûr, il est difficile de tout faire. Et pourtant, on n'a pas le choix. Hein. Et c'est exactement le problème qui se pose à Néhémie et que la suite du chapitre 4 développe. Bâtir et se défendre. Hein. Jour et nuit. Hein. Mais pour le peuple, c'est trop. Et le peuple se met à murmurer, 4 à 6. Cependant, déjà le peuple de Juda murmurait, « Ceux qui portent les fardeaux sont à bout de force et l'état de décombre reste énorme. Jamais nous n'arriverons à rebâtir cette muraille. » Quant à nos adversaires, ils disaient, « Ils ne sauront rien, ils ne verront rien jusqu'au moment où nous surgirons au milieu d'eux pour les massacrer et mettre fin à ce travail. » Les Juifs qui habitaient parmi eux vinrent 10 fois nous avertir de ce qu'ils préparaient. « De tous les lieux où vous vous tournez, disaient-ils, ils viendront contre nous. » Donc, avec les murmures vient aussi le découragement. Et les ennemis reprennent espoir d'anéantir le travail. On voit cependant que dans les menaces des ennemis, il y a davantage d'intimidation que de volonté de se battre réellement. On peut penser que ces fuites sont organisées. Il est dit qu'à 10 reprises, il y a des gens qui viennent du milieu d'eux pour avertir les Juifs qu'ils vont attaquer. Ces fuites, on peut penser, sont organisées, hein, et cette menace d'agression de tous côtés ressemble bien à de l'intimidation, hein, de l'enfumage, hein, comme on peut dire. Ces ennemis n'avaient sans doute pas la capacité de venir à bout de ce peuple, un peuple encouragé, un peuple encadré maintenant par Néhémie. À l'intimidation, Néhémie répond par la préparation à repousser l'attaque, ce qui constitue une véritable dissuasion. Verset 7. C'est pourquoi je mis des gens en place en contrebas, derrière la muraille, aux endroits découverts. Je les postais, groupés par familles armées d'épées, de lances et d'arcs. Alors on peut noter que Néhémie tient compte des plaintes du peuple. Ça, c'est important. Hein. Même si les plaintes sont infondées, ça ne sert à rien de dire, Il faut en tenir compte. Et il tient compte des plaintes du peuple en partageant les tâches. Hein. On a développé cet aspect de partage du travail la semaine dernière. Donc on n'insiste pas aujourd'hui. Continuons les versets 8 à 9. Après avoir tout inspecté, je m'adressai aux notables, aux chefs, au reste du peuple. N'ayez pas peur d'eux. Pensez au Seigneur qui est grand et redoutable et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Et lorsque nos ennemis apprirent que nous étions informés de ce que Dieu avait ainsi déjoué leur projet, nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. Alors pour poursuivre le parallèle entre notre mission, avec notre mission aujourd'hui, je dirais en écho à l'exhortation de Néhémie, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur d'affirmer votre foi, d'annoncer la bonne nouvelle. D'être ce que vous êtes, un chrétien. Regardez au Seigneur qui est grand et redoutable. C'est ça qui nous manque bien souvent. Souvenons-nous, nous sommes aussi forts que le Dieu qui nous envoie. Alors lisons encore les versets 10 à 17. « Mais à partir de ce jour, la moitié des hommes seulement faisaient le travail et ceux de l'autre moitié, vêtus de cuirasses, étaient armés de lances, de boucliers, d'arcs. Et les chefs se tenaient derrière tous les gens de Juda. Ceux qui étaient occupés à rebâtir la muraille et ceux qui portaient et chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun des bâtisseurs avait son épée attachée à sa hanche. La défense s'organise. » Et donc certains sont totalement affectés à la protection des travailleurs, mais tous restent prêts à se battre. C'est ainsi qu'il bâtissait. Un homme se tenait à mes côtés, prêt à sonner du cor. Et je dis alors aux notables, aux chefs et au reste du peuple, le travail est considérable et s'étend sur une grande distance. Nous sommes dispersés, loin des autres, le long de la muraille. Rassemblez-vous autour de nous, à l'endroit où vous entendrez le son du cor, et notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que chaque jour, nous poursuivions notre entreprise, la moitié d'entre nous tenant la lance à la main, depuis l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles dans le ciel. Durant cette période, je dis encore au peuple que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son collaborateur. Ainsi, nous pourrons monter la garde pendant la nuit et poursuivre le travail pendant le jour. Ni moi, ni mes proches, ni mes collaborateurs, ni les gardes de mon escorte, nous ne quittions nos vêtements, chacun gardait ses armes à portée de la main. Donc le peuple est dispersé tout au long de la muraille pour réparer les brèches. Mais en cas de menace, ils se regroupent au son du cor pour être plus forts ensemble. Alors nous aussi, nous sommes dispersés dans notre mission, dans notre témoignage, chacun auprès de ses voisins, auprès de ses collègues, auprès de sa famille. Mais nous avons aussi besoin de nous soutenir. De nous soutenir les uns les autres dans notre mission. Et les rassemblements de l'Église sont importants pour cela. Rien ne remplace les rassemblements d'Église. Notre ennemi est rusé, il est déterminé à neutraliser notre témoignage, mais nous ne sommes pas seuls, nous aussi. Et de façon très concrète, on pourrait dire qu'il y a bien sûr les rencontres de toute l'Église le dimanche, mais les réunions de prière permettent sans doute une plus grande proximité, dans les cas normaux en tout cas, une plus grande proximité dans le soutien réciproque les uns envers les autres. Alors concluons avec deux conclusions. Je voudrais conclure en soulignant deux choses. Tout d'abord, ce texte nous montre que la vie chrétienne est un conflit. On l'oublie. On risque toujours de l'oublier parce qu'on oublie ce qu'on ne veut pas voir. Et ce texte nous montre que la vie chrétienne est un conflit. Il y aura toujours de l'opposition. L'ennemi va essayer de nous distraire ou même essayer de nous faire abandonner complètement. Même si Dieu souhaitait que le mur soit reconstruit, le mur de Jérusalem, il n'a pas enlevé l'opposition. Même si la volonté de Dieu pour nous est que nous devenions forts dans la foi, que nous travaillons pour faire avancer son royaume, Dieu ne supprime pas l'opposition. Si nous répondons correctement, l'opposition nous conduira à une plus grande dépendance à l'égard de Dieu, mais aussi à une plus grande détermination à faire ce qu'il nous a appelés à faire. Et si nous cédons à l'opposition, au contraire, eh bien nous quitterons la course avec découragement, nous nous installerons dans une existence chrétienne médiocre. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Donc, ce texte nous montre que la vie chrétienne est un conflit, mais ce texte nous montre que l'enjeu nous rappelle aussi, comme on le disait au début, l'enjeu de notre mission. Dieu s'est fait connaître à nous pour nous révéler le salut en Jésus-Christ. Nous le louons et nous l'avons fait dans la première partie pour cette grâce extraordinaire. Mais Dieu nous envoie aussi pour nous associer à cette œuvre de salut de l'humanité. Tellement de nos compatriotes en ce début de 21e siècle se sont sans espoir et sans Dieu dans ce monde. Alors n'ayons pas peur de proclamer ce message de salut. Et si certains se moquent, si certains veulent nous ridiculiser, si certains nous méprisent, eh bien regardons à Dieu, à ce Dieu fort, à ce Dieu redoutable, qui est celui qui nous envoie dans sa mission. Répondons à l'opposition comme le faisait Néhémie, en priant tout d'abord, ensuite en continuant notre travail. ensuite en faisant preuve de vigilance contre l'ennemi, et enfin, surtout, en nous concentrant sur le grand et impressionnant Dieu que nous servons. Amen.